Loué et remercié soit le Seigneur aussi pour ce privilège que nous avons d'être rassemblés en son saint nom. Le dernier dimanche à Zurich, j'ai dit aux frères et sœurs Dietmar, vous n'avez pas besoin de venir. Et la sœur me disait, nous allons quand même venir. Et j'ai dit aux frères et sœurs Kupfer aussi, cette fois-ci, vous n'avez pas besoin de venir. Et aussi à Zurich. Et le frère Kupfer me dit, mais c'est pas possible. Nous devons venir. Les frères et sœurs de la Belgique ont appelé. Je dois traduire quand ils viennent. J'aurais préféré dire à tous ceux qui sont loin, rester à la maison. Qu'habitent loin, rester à la maison. Et malgré tout, nous sommes reconnaissants de ce que nous sommes ici, nous pouvons être ici en un si grand nombre. Rassemblés, nous voulons laisser passer janvier et février, mais malgré tout, nous sommes attirés de venir sous le coup de la parole de Dieu. C'est la chose la plus précieuse que nous avons sur terre. Il n'y a pas de chemin trop loin. Et on ne regarde pas à la fatigue. Et là, les Écritures restent valables en ce point. Ce sera, tant que la terre subsiste, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Et nous nous sommes attendus à ce que le temps ne sera pas pour nous, mais malgré tout, il y a des gens qui ne regardent pas au temps, à la météo, aux kilomètres. Ils ont un désir d'écouter la parole du Seigneur. Il y a deux groupes. Les uns viennent maintenant. Tant que la parole de Dieu est à écouter et est à trouver. Et ensuite, il est parlé du deuxième groupe. Qu'ils iront aussi de mer en mer pour trouver la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas parce que ce sera trop tard. Que Dieu puisse nous accorder des cœurs reconnaissants pour le temps que nous avons encore, pour le privilège qu'il nous a donné pour écouter dans toute la véracité sa parole. Nous allons continuer avec la prédication de hier soir. Le lieu d'adoration préparé par Dieu. Nous allons aussi à cela lire plusieurs écritures et faisons confiance que Dieu nous bénit. Notre frère nous racontait tout à l'heure comment est-ce que Dieu lui a montré l'huile, comment est-ce que de l'huile est versée sur la parole et qu'ensuite cette même huile est prise et a été mise sur la tête des gens. Nous savons que c'est le même Saint-Esprit qui est dans la parole de Dieu, qui a inspiré les prophètes. Le même esprit avec lequel Jésus de Nazareth fut oint. Le même esprit qui a oint ce corps de Dieu. C'est le même esprit qui oint l'Église. Nous sommes une partie de Dieu. Nous sommes devenus une partie de Dieu. Le sujet que le frère Branham dans la prédication traite est le lieu choisi de Dieu. Le lieu d'adoration choisi par Dieu. Et ça doit être ce lieu-là dans lequel Dieu ferait résider son nom. Pas un endroit quelconque, mais l'endroit, le lieu. Pas un lieu quelconque, mais le lieu que Dieu a choisi. Pas un nom, mais le nom qui est au-dessus de tout nom. Et je vous dis, ici, il y a un très grand mystère. Que Dieu puisse, par l'Esprit, nous le révéler. Il y a une parole merveilleuse nous a été lue de Tite chapitre 3, que cela devienne vrai, si cela n'est pas déjà devenu vrai en nous, que par la miséricorde de notre Dieu, Nous sommes sauvés par le bain de la nouvelle naissance et par la régénération du Saint-Esprit, le renouvellement du Saint-Esprit. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que encore je souligne cela. Il a dit Timothée, c'est dans Tite, chapitre 3, versets 4 et 5. Vous savez, l'homme naturel et charnel ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Il peut, n'est-ce pas, les recevoir dans son entendement et il va les rouler de droite à gauche sans que cela lui soit révélé. Mais quand l'Esprit, par l'onction, nous révèle ce qu'on écoute, alors ce n'est pas notre réflexion sous le coup de la parole et notre connaissance sous le coup de la parole, mais c'est la révélation dans le cœur par le Saint-Esprit. Alors nous avons accès aux choses que Dieu a révélées. Il est écrit ici dans Tite 3, au verset 6, après avoir dit « Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu abondamment sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. » Afin, au verset 7, maintenant que par sa grâce, nous soyons justifiés et que selon notre espérance, nous devenions héritiers de la vie éternelle. Et encore, la phrase courte mais puissante, la parole est certaine, digne de confiance. Et je veux que tu en parles avec toute la certitude. La parole est certaine, digne de confiance. Nous pouvons avec certitude la prêcher. Avant de lire plusieurs écritures, je voudrais aller dans Éphésiens chapitre 3 et lire deux versets. Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21. Mais à celui qui, selon la puissance qui agit en nous, est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui, la gloire. À lui soit toute l'honneur dans l'Église et dans le Christ Jésus pour toutes les générations, dans tous les siècles jusqu'à l'éternité. Et derrière, il est écrit le mot « Amen ». Ainsi soit-il, et c'est ainsi que c'est aussi. Principalement ici, il s'agit de cette pensée. À lui soit toute l'honneur dans l'Église. Il y a une Église qui porte son nom. Une Église qui est destinée et pensée à être le lieu de la révélation de Dieu, où Dieu se manifeste. Et vous allez voir comment est-ce que la révélation du nom de Jésus pour l'Église est importante. Nous savons que tout est basé sur la révélation. Et aucun homme ne peut se procurer quelque chose, si ce n'est que cela lui est donné de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait déterminé le temps et le lieu. Il avait déterminé le cours des événements, de certains événements, et ce n'est que lorsque les choses étaient faites comme il avait dit. Où et quand est-ce qu'il les avait dit? C'est à ce moment-là que sa bénédiction se reposait sur ce qu'il faisait. Mais lorsque les gens agissaient de leur propre gré, ils se détournaient de Dieu et Dieu les abandonnait et ils suivaient leur propre voie, leur propre chemin. Je voudrais lire plusieurs écritures qui montre ce que frère Branham a souligné en lisant Deutéronome. Je voudrais lire plusieurs écritures pour nous montrer comment est-ce que les gens se sont détournés, ont dévié, qui n'ont pas écouté ce que le Seigneur a dit et qui n'ont pas fait en fait ce qu'il a dit et tel qu'il a dit. Dans Juges chapitre 10, nous allons lire plusieurs versets. Juges, chapitre 10, à partir du verset 10. Retenons sous nos yeux que Dieu souhaite l'adoration, vu qu'on l'adore, et il a promis de rencontrer les hommes dans le lieu, dans l'endroit qu'il a déterminé, qu'il a choisi, là où il fait résider son nom. Et nous voyons aussi ce que les hommes ont fait, ce que des gens ont fait qui n'ont pas écouté la parole de Dieu et obéi à la parole de Dieu. Dans Juges 10, verset 10. Alors les Israélites crièrent à haute voix à l'Éternel pour lui demander du secours. En confessant, nous avons péché contre toi, en abandonnant notre Dieu et en servant les Baals. L'Éternel répondit aux Israélites, « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens et des Amorites, des Ammonites et des Philistins ?» Et quand les Sidoniens, les Amalekites et les Madianites vous ont affligé et que vous avez crié à mon secours, ne vous ai-je pas délivré de leur puissance? Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous sauverai plus désormais. Allez crier au secours au Dieu que vous avez choisi, que vous vous êtes choisi. Qu'il vous aide quand vous serez dans la détresse. Les Israélites prièrent alors l'Éternel. Nous avons péché, fais de nous ce qu'il te plaît. Mais sauve-nous cette fois encore. Alors ils ôtèrent du milieu d'eux les dieux étrangers et se prosternèrent devant l'Éternel. Alors il ne put plus retenir sa miséricorde sur l'affliction d'Israël. Dieu a réprimandé, corrigé son peuple, mais il ne put plus retenir sa miséricorde sur l'affliction d'Israël. Quand ils ôtèrent du milieu de leur peuple, leur Dieu, il leur disait, allez crier au secours au Dieu que vous avez choisi, qu'il vous aide quand vous serez dans la détresse. Alors ils ont compris que là, il n'y a pas de... Ils ne peuvent pas de leur Dieu qu'ils ont choisi là, être exaucé, être secouru dans leur détresse. Alors ils se sont retournés au Seigneur. Ils l'ont invoqué, ils ont cherché sa face et ils ont dit, fais de nous ce qui te plaît. Nous avons péché, mais sauve-nous cette fois encore. Cette fois-ci encore. Nous pensons là à Samson, qui a dit encore une fois, et encore cette fois. Et je crois que si nous lisons dans Hébreu, que Dieu encore une fois ébranlera le ciel et la terre. Alors cela veut dire que l'Église doit d'abord sortir de l'état dans lequel elle se trouve pour crier. Et elle criera au Dieu Tout-Puissant, au Dieu vivant, et Dieu exaucera l'Église. Allons dans 2 Rois, chapitre 17. 2 Rois, chapitre 17, versets 33 et 34. Et ensuite, verset 41. Ils étaient donc adorateurs de l'Éternel. Mais en même temps, ils restaient aussi serviteurs de leur Dieu, selon les coutumes des nations dont ils avaient été enlevés. Jusqu'à ce jour, ils continuent selon les coutumes de leurs origines. Ils ne rendent pas un culte correct à l'Éternel, ils n'agissent pas selon ses statuts et ses ordonnances, ni selon la loi et les commandements que l'Éternel a prescrits aux descendants de Jacob, auxquels il a donné le nom d'Israël. Le peuple d'Israël a fait les deux choses. Ils ont adoré l'Éternel et vivaient selon les coutumes des peuples. Ils vivaient encore selon les coutumes des peuples desquels ils étaient pris, ils avaient été pris. Nous rapportons ça maintenant à l'Église du Nouveau Testament. C'est la même chose. Nous sortons de dénomination et de confession. Nous ne pouvons pas conserver des choses, sortir avec des choses que nous pratiquions là-bas. Nous devons faire un nouveau commencement avec Dieu et Dieu avec nous. Et c'est seulement si nous faisons les choses en accord avec la parole de Dieu et avant laisser tout derrière nous, les coutumes et les pratiques religieuses, c'est seulement comme ça que nous pourrons vraiment adorer Dieu et lui rendre un culte correct et Dieu exaucera notre adoration. Ces peuples ont donc été adorateurs de l'Éternel, mais en même temps serviteurs de leurs idoles. Même leurs enfants et les enfants de leurs enfants l'ont fait comme leur père jusqu'à ce jour. Ils ont fait les deux choses. Ils ont adoré Dieu, mais malgré tout, en même temps, ils ont servi leurs idoles. Mais ils ont utilisé leurs idoles pour le faire, pour adorer Dieu. Alors qu'il est écrit, tu ne te ferais pas d'image taillée, de représentation de ce qui est en haut au ciel ou bien en bas sur la terre. Dieu est Dieu. Personne ne peut le décrire, le formuler, l'expliquer. Dieu est esprit. Dans quelle forme et silhouette nous voulons le mettre comme dans un esprit? C'est pas possible. Il se révèle à qui il veut et comme il le veut. Et ça, il a fait. Et ça, il le fera dans tout le futur. Nous voulons encore lire une parole dans Deutéronome encore à cela. Dans Deutéronome, chapitre 29. Deutéronome, chapitre 29. D'abord le verset 3. Et ensuite, à partir du verset 16. Deutéronome 29, verset 3. Les grandes œuvres de puissance que vous avez vues de vos propres yeux, ces grands signes et ces prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour reconnaître, des yeux pour voir ou des oreilles pour entendre. À partir du verset 16 maintenant. Vous savez vous-même comment nous avons habité le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Et vous avez vu leurs monstres et leurs idoles de bois et de pierre, d'argent et d'or qui sont avec eux. Qu'il ne se trouve parmi vous un homme ou une femme, une descendance ou une tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations, qu'il ne se trouve parmi vous aucune racine qui produise comme fruit du poison et de la mauvaise herbe, qu'il n'y ait personne qui, entendant les paroles de malédiction de cette alliance, se réjouisse en son cœur en pensant « Les choses iront bien pour moi, même si je marche dans l'endurcissement de mon cœur. Le résultat serait que tout, la terre arrosée comme la terre séché serait emporté. Un tel homme, le Seigneur ne voudra pas pardonner un tel homme. Non, une telle personne. Et la colère ardente, la colère de l'Éternel et sans elle seront ardents contre cette personne, contre cet homme. Et toutes les malédictions qui sont écrites dans ce livre tomberont sur lui, se déverseront sur lui. Et le Seigneur exterminera son nom de sous le ciel. Frère Branham, dans les prédications sur les sceaux, il a mentionné les deux noms, Dan et Éphraïm. Ces tribus ont été exterminées et n'appartiennent plus aux 12 tribus parce qu'ils ont exercé l'idolâtrie. Je voudrais aller dans 1 Roi, le chapitre 12. 1 Roi, chapitre 12. Ici, il y a plusieurs versets. Je le fais pour venir plus tard au point qui est important. Pour montrer comment est-ce que c'est important d'adorer le vrai Dieu véritablement et lui seul et personne d'autre à côté de lui. 1 Roi chapitre 12, nous lisons ici à cause du contexte à partir du verset 25. Jéroboam fit de Sichem une forteresse dans la montagne d'Éphraïm et en fit sa résidence. Puis il sortit de là et fit de même pour Pinuel. Mais il se disait en lui-même, la royauté reviendra probablement maintenant à la maison de David. Car lorsque le peuple d'ici devra monter pour offrir des sacrifices dans le temple de l'Éternel à Jérusalem, le cœur du peuple d'ici se tournera de nouveau vers le roi Roboam de Juda comme son seigneur. Ils me tueront alors et retourneront vers le roi Roboam de Juda. Je vais bientôt continuer à lire, tout de suite continuer à lire. Vous savez, il y avait la division du royaume, les 10 tribus ici et les 2 tribus là-bas, Israël et Juda, chacune de leur côté. Mais maintenant, revenons à ce point. Ici, il y avait un homme qui voulait être quelque chose, voulait valoir quelque chose. Il pensait que si les gens vont à Jérusalem pour adorer, leur cœur se tourneront de nouveau à David ou bien alors à sa descendance. Et ça, il voulait l'empêcher. Et pour empêcher cela, pour s'assurer sa chose, il a fait la chose suivante. Il a pensé à la chose suivante. Je vais le lire à partir du verset 28. Après s'être consulté, le roi fit faire 2 images de taureaux en or et dit au peuple, « Vous êtes maintenant monté à Jérusalem depuis assez longtemps. Voici votre Dieu, ô Israélite, qui vous a fait sortir d'Égypte. Voici ici votre Dieu, ô Israélite. » Alors il dressa une image de taureau à Bethel et fit transporter l'autre à Dan. Mais cela devint une occasion de péché. Le peuple alla les uns à l'image de Bethel, les autres à celle de Dan. Si vous lisez dans les 7 sceaux, c'est presque à la fin du livre où Frère Branham parle de ce point. Si vous lisez concernant les tribus dans l'Apocalypse 7, vous constaterez que Dan et Éphraïm manquent parce qu'ils ont commis l'idolâtrie, parce que quelque chose a été fait qui n'était pas juste devant Dieu. Revenons à cette parole que Frère Branham avait lue de Deutéronome 16, verset 2. Deutéronome 16, verset 2. Ici, il est écrit, « Tu égorgeras ensuite du petit bétail et des bœufs pour le sacrifice de la Pâque à l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Je voudrais lire plusieurs choses de la prédication de frère Branham et continuer avec des versets bibliques. À la page 7, les deux dernières phrases. Oh, nous voulons maintenant sonder les Écritures et trouver ce lieu où son nom réside. Nous savons que dans toute la Bible, il y a des symboles et des images de différents lieux où il a rencontré les hommes. Mais ça, ce n'est pas le lieu où aujourd'hui il les rencontre. Car par cela, il y a seulement, par ces choses, il y a seulement quelque chose qui a été symbolisé par des images et des symboles jusqu'à que le vrai lieu arrive où il rencontre les hommes, le lieu, l'église, où on peut le rencontrer. Il y a un lieu, il y a une église de laquelle Dieu a promis que il rencontrera les hommes là et exaucera leurs prières si ils venaient à ce lieu pour l'adorer. Quelque chose de très puissant est exprimé ici. Nous devons trouver le lieu, l'endroit que Dieu a choisi, et ça c'est toujours le lieu où il peut révéler son nom et sa parole. C'est toujours le lieu dans lequel il peut parler, il peut agir, il peut se manifester. Et nous allons constater que l'Église porte le même nom que le Rédempteur, le Sauveur a porté. Nous sommes nommés de son nom. Nous sommes appelés de son nom. Et nous allons constater que tel que Jésus était le lieu de la révélation de Dieu sur terre, c'est ainsi que l'Église de Dieu doit être la révélation, le lieu de la révélation de Dieu sur terre. Tel que Jésus a fait les œuvres du Père et pouvait dire, ce n'est pas moi qui fais ces œuvres, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. C'est ainsi que cela doit être avec l'Église. C'est ainsi que le Seigneur l'a promis. Et autrefois, alors que le Seigneur avait fait de grandes choses, il a dit, et ils louèrent Dieu à cause de ce qui s'était passé. Le temps doit arriver où des hommes pourront et peuvent louer Dieu à cause des choses que Dieu fait dans l'Église. Ça, c'est la restauration totale dont nous allons encore venir à parler. Ici, frère Branham dit, Dieu a eu beaucoup de lieux dans différents temps et périodes pour faire quelque chose. Mais si aujourd'hui, nous irions à la montagne de Sinaï, sur la montagne de Sinaï, rien ne serait passé. Nous serions fatigués en étant arrivés en haut. Mais si dit à Moïse autrefois, monte à moi sur la montagne, alors ça, c'est une autre chose. Nous avons été aussi sur la montagne de Carmel. Nous avons vu la grande statue d'Élie avec l'épée dans sa main. Mais quand nous regardions en bas, dans la vallée, nous n'avons pas vu de bataille remportée ou bien de victoire, que des bâtiments. Quand Élie autrefois était monté sur la montagne de Carmel, selon l'ordre de l'Éternel, parce qu'il avait reçu un ordre, alors quelque chose s'était passé. Aujourd'hui, pour aller dans le même endroit, rien ne va se passer. Dieu a eu des différents lieux, des différents hommes, des différents temps pour ici et là se manifester. Nous pourrions maintenant en faire une liste. Mais c'est sûrement pas dans la pensée de Dieu. C'est sûrement pas dans la volonté de Dieu. Nous voulons venir maintenant au point qui compte pour nous. Et je voudrais, pour cela, continuer à lire le deuxième paragraphe. Nous constatons que beaucoup prétendaient avoir ce lieu et que le nom de Dieu habite dans leur lieu. Mais vous voyez que c'est eux qui ont mis le nom de Dieu là-bas. C'est une grande différence. Si c'est Dieu lui-même qui fait résider son nom dans le lieu qu'il a choisi, ou bien est-ce que c'est une autre personne qui le fait? Nous devons nous remarquer ça. Que Dieu disait que c'est lui qui le fera résider là, dans le lieu qu'il aura choisi. Il a dit, je ferai résider mon nom dans ce lieu. Je ferai résider mon nom dans ce lieu. Ça, c'est le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ça, c'est le lieu que j'ai choisi pour que les hommes puissent m'adorer. Donc, il s'agit d'abord du nom. Beaucoup parlent du nom de Jésus et ne savent pas, malheureusement, la signification de ce nom. Et nous avons toujours de nouveau remarqué que des hommes semblent chanter le nom de Jésus avec tout leur cœur et tout leur être. Mais quand il s'agit devant Dieu et devant beaucoup de témoins de se confesser de ce nom, c'est-à-dire dans le baptême d'eau biblique au nom du Seigneur Jésus-Christ, et comme pour dire, entrer dans ce nom, prendre ce nom dans cette alliance avec de bonne conscience avec Dieu, alors là, ils se retirent et ils disent non, là, on refuse de le faire. Vous voyez, c'est très à déplorer que le nom originel dans la forme grecque a été changé. Si aujourd'hui, on avait le nom hébreu Yahshua, alors nous saurions très exactement ce que nous avons à faire avec ça, avec ce nom. Et nous saurions ce qu'il signifie. Il vient du nom de Yahweh et donc Yahshua. Tu l'appelleras Yahshua, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Yahweh, l'Éternel, et Yahshua, l'Éternel Sauveur, car Shua veut dire sauveur. Yahvé est devenu sauveur, pas un autre. Lui le même, c'est lui qui était et qui est et qui sera. La même personne, Yahvé. Où est aujourd'hui la révélation de son nom? Où est-ce qu'aujourd'hui il y a la révélation de sa parole et de sa volonté? Des hommes, eux utilisent son nom partout, emploient son nom partout, sans par révélation avoir reconnu la signification de ce nom, sans savoir où ou bien de quoi il s'agit quand on parle de ce nom. J'ai apporté un livre avec moi, avec le titre « Le judaïsme », et je voudrais lire quelques phrases. Le nom Yahvé a une signification particulière. Les Juifs disent qu'ils ne savent pas, vous avez tous lu les sept sceaux, et aussi frère Branham a mentionné ces quatre lettres. J-H-W-H. Les Juifs disent qu'ils ne savent pas prononcer ces quatre lettres, qui sont les racines hébraïques des lettres de la parole. Ils ne savent pas comment les prononcer. Et d'ailleurs, le nom de Dieu, le grand nom, ne peut pas être prononcé par un juif pieux. Alors, on prononce l'Éternel par, on lit l'Éternel par Adonai, lorsque cette combinaison spéciale de lettres J-H-W-H apparaît dans les textes. Cette combinaison apparaît, de lettres apparaît 6700 fois dans l'Ancien Testament. Les Juifs refusent de prononcer ces quatre lettres. Ils n'ont pas voulu les utiliser, ils n'ont pas pu les prononcer. C'est resté un mystère. Seulement, celui à qui Dieu l'a révélé le savait, et tous les autres ne le savent pas jusqu'à aujourd'hui. Ce qui m'étonne lors de cette description des choses vient maintenant dans les quatre prochaines phrases. Le mystère du nom de Dieu a donné lieu à toutes sortes d'idées. Comme l'idée que quelqu'un qui connaît le nom de Dieu en tant qu'étranger et qu'il écrit, obtient, entre en possession de pouvoir miraculeux. J'ai pensé à cela en lisant cela, alors que les apôtres, n'est-ce pas, prêchaient au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, des miracles puissants et des prodiges ont eu lieu. Et il leur a même été interdit de prêcher en ce nom, parce qu'il y a trop de miracles qui sont passés en ce nom. Personne ne leur a dit qu'ils doivent complètement arrêter de prêcher. Non, mais ils n'avaient pas le droit de prêcher en ce nom. Ils pouvaient continuer, mais pas en ce nom. Parce que, visiblement, en ce nom, la puissance de Dieu a été manifestée. Et si ici, ces incroyants et écrivains, ou bien alors qui que ce soit, témoignent que si quelqu'un de quelconque savait, connaissait ce nom de Dieu et le prononçait, ou bien alors l'écrivait, alors avec cela doit être lié des pouvoirs miraculeux de Dieu. Alors nous qui avons cru, nous à qui le nom de Dieu par révélation a été révélé, nous qui le croyons, nous devrions être convaincus que en ce nom de Dieu, encore aujourd'hui, la puissance de Dieu sera manifestée comme elle a été autrefois. Je voudrais seulement pour explication, éclaircissement, que personne maintenant, par spéculation, dise, bon, maintenant, dès maintenant, nous devons utiliser la forme hébraïque de ce nom de Dieu. Non, non, c'est absolument pas nécessaire. Sinon, ça conduirait de nouveau à une chose, à une chose qui attirait à soi un manque de sobriété. Non. Regardez, il s'agit de la révélation du nom. Chaque nom, je vous donne un exemple. Dans notre pays, la Suisse, la France, chaque pays de la terre, l'Allemagne, est désigné par différentes manières. Par exemple, il y en a qui disent pour nous notre pays, Allemagne. Il y en a qui disent Germany, c'est de nouveau Deutschland. Il y en a qui nous disent Saxe, et c'est aussi Deutschland. Il y en a qui disent Allemagne ou bien Germany. Nous, et nous sommes nous-mêmes le même pays là. Nous sommes désignés par différents noms, par les différentes langues. C'est ainsi que nous aussi, ici, nous l'avons dans la Bible. Dans la traduction allemande, le nom Jésus en allemand est valable. Vous comprenez? Les uns disent, pour les États-Unis, par exemple, il y en a qui diraient Basie pour les États-Unis. Donc, chaque pays peut être nommé différemment selon les langues. Et ici, nous avons affaire au nom allemand du Seigneur Jésus. Donc, Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est le nom dans lequel Dieu s'est révélé. Alors, celui qui veut aller à l'origine des choses, il fait bien s'il connaît le nom originel en hébreu, Yahvé, l'Éternel, qui existe éternellement, est devenu Yahshua. Yahvé est devenu Yahshua. Vous pouvez, si vous avez par exemple une concordance à la maison, vous pouvez voir la signification des noms. Par exemple, Alléluia, ça veut dire louer l'Éternel. ces trois lettres, YAH, c'est l'éternel, Yahvé, Yahshua, comme par exemple IL, EL, Elohim, Eloha, tout veut dire Dieu, elle, Emmanuel, Bethel, la maison de Dieu, elle, c'est Dieu, et ces deux mots, ces deux lettres, elle se réfère à Dieu, comme les trois lettres J à H se réfèrent au Seigneur, à l'Éternel. Donc, il ne s'agit pas seulement de ce que aujourd'hui quelqu'un avec le nom de Jésus comme ça, de son propre gré, le prononce comme il veut. Non, il s'agit de plus. Il s'agit de ce que nous puissions reconnaître que ce seul et unique vrai Dieu, dont le nom de l'Alliance dans l'Ancien Testament était Yahvé, le même Dieu, la même personne dans le Nouveau Testament, comme Yahshua s'est révélé et s'est manifesté. Et que avec cela, il est lui-même l'Éternel, le Seigneur. C'est comme ça que les Saintes Écritures aussi le témoignent. Aujourd'hui, Christ vous est né, qui est le Seigneur, l'Éternel, dans la ville de David. Dieu a trouvé un lieu, a trouvé quelqu'un qui portait son nom. Comprenez-vous de quoi il s'agit? Frère Branham dit dans l'Ancien Testament que c'était des symboles, des images. Tous ces sacrifices et tout ce que Dieu avait ordonné de faire, mais dans le Nouveau Testament, ces choses, ces symboles, ces images sont devenues une réalité divine. La parole est devenue chair et a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire d'un Fils seul engendré du Père, plein de grâce et de vérité. Mais il s'agit encore de plus. Ça, nous allons tout de suite le voir. Jésus, notre Seigneur, parlait du temple. Et dans tout l'Ancien Testament, nous avons, n'est-ce pas, la description du temple et ensuite sa destruction et, que le temple fut rebâti. Et Dieu ensuite a rempli ce temple de sa gloire. Je lis pour cela dans l'évangile de Jean, chapitre 2. Je veux dire dans le Nouveau Testament, se référant à notre Seigneur. Jean, chapitre 2, 19, verset 19 jusqu'au verset 22. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent alors, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, tu veux le rebâtir en trois jours. » Mais Jésus avait voulu dire le temple de son propre corps. Dans l'Ancien Testament, il est écrit, car il est écrit que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est déjà levé de sa sainte demeure céleste. Zacharie 2, verset 13. Ici, un temple, un lieu de révélation de Dieu, un temple qui n'est pas construit de main, d'homme bâti, mais un temple dans lequel Dieu habite. Pour quelle raison le temple a été bâti? Pour que le peuple de Dieu puisse se rassembler, pour rencontrer Dieu dans son temple. Pourquoi est-ce que le souverain sacrificateur, une fois par an, allait dans le lieu très saint, entrait dans le lieu très saint, pour recevoir la réponse de Dieu et l'apporter au peuple de Dieu, la transmettre au peuple de Dieu? Un temple. Le corps de Jésus était un temple. Et nous allons voir, tel que au nom du Seigneur, tel que nous portons le nom du Seigneur, c'est ainsi que Dieu nous a déterminés à être son temple comme église. N'oublions pas cela. C'est le lieu d'adoration. Jésus disait, détruisez ce temple et je le rebâtirai en trois jours. Vous vous rappelez de la prière d'inauguration de Salomon alors qu'il demandait à Dieu de laisser ses yeux ouverts sur ce lieu qu'il a choisi. Et ensuite, Dieu a rempli ce lieu, ce temple, de sa gloire. Maintenant, ici, il y avait un temple, mais pas construit de main d'homme. Le Seigneur dit, dans Hébreu, il est écrit, nous voulons lire cela, Hébreu chapitre 10, une parole connue de nous tous. Hébreu chapitre 10, à partir du verset 5. C'est pourquoi aussi lorsqu'il est entré dans le monde, il a dit, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as préparé un corps. Son corps était le temple de Dieu. L'extérieur était le temple qu'on a vu. Mais l'intérieur était ce qu'on ne pouvait pas voir. Et c'est peut-être raison que la Bible dit que Dieu était en Christ, caché pour les uns, mais révélé pour les autres. Les uns disaient, nous le connaissons, ses sœurs et ses frères, d'où est-ce que celui-là a ce pouvoir miraculeux, miraculeux. Ils le connaissaient selon la chair, mais pas selon l'esprit. Il y en a qui le connaissent selon l'esprit. Et nous voulons compter à ce nombre des hommes qui maintenant comprennent ce qui compte. À quoi est-ce que ça nous sert si nous savions qui est Jésus-Christ? Quel est le sens et l'objectif? Quel était le sens et l'objectif de sa révélation? Si aujourd'hui nous ne savions pas par révélation, ne savions pas pour quelle raison l'Église, à quoi est-ce que l'Église est déterminée et qu'est-ce que Dieu veut faire par elle. Je lis de 1 Corinthiens chapitre 3. Ici il est écrit au verset 16 et 17. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est là ce que vous êtes. Ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. Ça, je ne fais que seulement le lire. Jésus disait de soi, de lui-même, détruisez ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Je le relèverai en 3 jours. Eux, ils parlaient du temple et ils pensaient qu'ils se référaient au temple qui a été bâti de main d'homme. Et on dit, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, tu veux le relever en 3 jours. Il parlait du temple de son corps. Mais ensuite, ce temple, ce corps, il a livré pour se racheter un corps, une église, un temple dans lequel il peut habiter. Car Dieu veut habiter parmi les hommes. Il veut se manifester. Il veut être notre Dieu, se révéler, et nous devons être son peuple. Je lis encore la parole qui appartient à cette parole dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. Ici, il est écrit, au verset 12 et 13. De même que le corps, 1 Corinthiens 12, verset 12, est un, et a pourtant plusieurs membres, mais que tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Car c'est par le baptême d'un seul esprit que nous avons tous été unis en un seul corps, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres. et que nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous pourrions encore continuer à lire. Il s'agit de ce que maintenant nous puissions comprendre. Dieu a mis sur le Rédempteur le nom qui était nécessaire pour notre salut. Et ensuite, il l'a révélé, ce nom à tous les rachetés. Ce nom de la rédemption à tous les rachetés. C'est ainsi qu'il le dit dans l'évangile de Jean. « J'ai révélé ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Nous portons son nom. Pas nos noms, notre nom, pas ton nom, pas mon nom. Nous portons son nom comme racheté. Et maintenant monte en nous un grand désir que la puissance de ce nom divin qui a été manifesté dans le Rédempteur, que la même puissance aussi soit manifestée, puisse être aussi manifestée par les rachetés. Si vous lisez cette prédication que nous sommes en train de survoler, alors vous trouverez un exemple étrange où frère Branham a prouvé la puissance du nom de Jésus. Ou plutôt dit, Dieu en a témoigné. C'est pas nous qui avons approuvé quelque chose et à confirmer quelque chose. Mais Dieu se tient sur ce qu'il dit dans sa parole. Et il ne peut rien faire d'autre que de certifier et authentifier ce qu'il le dit et le confirmer et le certifier et l'authentifier. Si nous avons sous nos yeux ce que nous avons reçu de Dieu au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, alors dans nos prières et dans notre foi, notre vie de foi, nous allons avec plus d'assurance venir devant le trône de Dieu, pas avec des tâtonnements, mais avec la foi, l'assurance de la foi divine, en sachant, tel qu'il est écrit, comment est-ce que Dieu, qui n'a pas épargné son Fils, ne nous donnerait pas toutes choses avec lui? Ici, frère Branham montre que Dieu a choisi un lieu pour y faire résider son nom. Ça, c'était le lieu où il parlait, où il agissait, où il rassemblait son peuple, convoquait son peuple pour se révéler à son peuple. Nous lisons aussi que le Seigneur avait parlé à Moïse. Je me suis fait connaître à Abraham et à Isaac. Et je me suis révélé à Abraham, Isaac et Jacob. Mais je ne me suis pas fait connaître à eux avec mon nom de Yahvé. Quand est-ce que Dieu a révélé ce nom, a fait connaître ce nom? C'était quand l'alliance devait être faite. C'était le nom de l'alliance de Dieu avec son peuple dans l'Ancien Testament. Pas étonnant que ce nom est écrit 6700 fois. 6, le nombre d'un homme. Ça, nous l'avons souvent entendu. Même le nombre de celui qui se montrera comme étant plus qu'un homme. Mais, 666, mais le 7, c'est un homme divin. Dieu a pris soin de toute l'humanité. Et je vais vous dire, malgré toutes les différentes traductions dans toutes ces différentes langues qui existent sur Terre, le même Saint-Esprit révélera au peuple de Dieu dans tous les endroits, accordera au peuple de Dieu la même révélation sur Dieu, sur la parole de Dieu, sur le nom de Jésus, par sa grâce. Nous n'avons pas affaire à des traductions et à des traducteurs. Nous avons affaire au Saint-Esprit qui sonde toutes choses et qui va à l'origine des choses et remet en évidence ce qui a disparu dans son sens pour ainsi vivifier de nouveau son peuple et nous accorder l'assurance de la foi par ta grâce. Je me demande, et à nous tous, est-ce que Dieu réellement nous a seulement révélé ce nom pour que nous puissions nous distinguer des autres, ou bien alors être méprisés par eux pour porter l'opprobre à cause de ce nom? Ou alors, est-ce que Dieu a eu, en nous révélant ce nom, ou bien est-ce que Dieu a lié un objectif plus élevé que cela, en nous révélant ce nom? Et je vais vous dire que Dieu n'a pas seulement séparé, n'a pas seulement mis à part, ne nous a pas seulement révélé son nom. Il ne nous a pas seulement mis à part et séparé, mais à cela, il a lié un grand objectif. Nous voulons continuer à lire à la page 8, dans les deux derniers paragraphes rapidement. Citation. Je crois que nous sommes prêts à abandonner l'Égypte, à quitter l'Égypte et entrer et à passer dans le pays de la promesse. Il est temps d'aller au bon endroit, dans le bon lieu et d'arrêter de se chamailler. Il pourrait être dit beaucoup de choses sur cette pensée. On doit être au bon endroit, au bon moment. Et je vais vous dire comment est-ce que je veux être. Où est-ce que je veux être? Je veux être là où Dieu se révèle, où Dieu se manifeste. Je veux être dans le lieu où Dieu parle. Pour ça, pour moi, il n'y aurait pas de voyage de voyage trop loin. Quand je sais que dans ce lieu, Dieu parle et se révèle et bénit. Je vais vous dire où est-ce qu'il parle, où est-ce que Dieu parlera et où Dieu agira et se révélera. Je peux exactement vous nommer le lieu et l'endroit. Elle est l'église du Dieu vivant, le temple de Dieu, la demeure de Dieu, la maison de Dieu. N'avons-nous pas dans l'épître d'Hébreux, il n'y a pas longtemps, lu que Moïse était fidèle dans sa maison en tout ce que Dieu lui avait ordonné de faire et que Christ comme fils est aussi fidèle dans sa maison et sa maison, nous le sommes. Et sa maison, c'est nous, la demeure de Dieu, le lieu de la révélation, de la manifestation de Dieu, de là où Dieu agit, parle et se révèle. Nous le sommes nous-mêmes, la maison de Dieu. Et je vais vous dire, aussi vrai que le Rédempteur avait été déterminé à obtenir ce nom de rédemption, c'est ainsi que les rachetés ont été aussi déterminés à porter ce nom qui est au-dessus de tous les noms, de l'aimer. Et nous avons un droit d'expérimenter la puissance de ce nom aussi. J'aspire à ce jour dans lequel cela sera manifesté. Je viens justement de voir une bien-aimée sœur qui était ici, qui était venue ici après la réunion devant hier soir et qui remerciait le Seigneur de tout son cœur, remerciait le Seigneur. Et à la fin, je m'excuse, mais à la fin, elle a dit cette phrase suivante. Seulement maintenant de mes propres mots. Il me suffit. Cela me suffit que l'âme et l'esprit soient guéris ou en bonne santé. Le corps n'est pas important. Le frère Rousse, nous étions ici ensemble. Et il y a quelque chose qui a parlé à ce moment-là dans mon cœur. Le temps est là où nous devons revendiquer tout ce que Dieu nous a promis dans sa parole et nous a accordé déjà en Christ notre Seigneur. Qu'est-ce que nous voulons là exclure? Si Dieu nous a accordé déjà la guérison de notre corps à Golgotha, qui ose exclure la guérison de notre corps, sa guérison de son corps? Il a été blessé, meurtri et frappé pour notre transgression et nos iniquités. Il a versé son sang à cause de nos péchés. Et que par ses meurtrissures, nous avons été déjà guéris. Il a été frappé dans son corps pour que notre corps frappé puisse être guéri. Nous ne sommes plus disposés à renoncer à une partie de notre salut si chèrement acquis. L'heure est venue pour nous d'avancer dans la foi sur chaque promesse, de nous tenir sur la promesse et de revendiquer le terrain, la terre, comme Paul l'a écrit aux Éphésiens dans le chapitre 6. Sommes-nous prêts à partir du verset 10 jusqu'au verset 18? Si Dieu nous accorde sa grâce et nous aide, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, même si nous avions l'intention. Mais si nous croyons à la totale restauration de toutes choses et que nous sommes convaincus que Jésus-Christ est le même encore aujourd'hui et qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, alors ce ne sont pas des paroles sans contenu. Mais ça, c'est une réalité divine qu'on ne peut renverser. Alors nous pouvons nous attendre à ce qu'aujourd'hui, il peut faire en toi et en moi ce qu'il a fait autrefois. Mais si, par fausse modestie, nous voulons épargner au Seigneur quelque chose, alors qu'est-ce qu'il pourra alors faire? Non, nous voulons avoir du courage. Il ne s'agit pas de ce que nous pourrions faire ou bien devrions faire de nous-mêmes. Non, il s'agit dans la foi de prendre dans la foi ce qui nous a été donné par Dieu. De le prendre dans la foi par Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Ici, frère Branham dit, à la page 10, dans le premier paragraphe, nous devons être en accord. En accord avec quoi? Pas les uns avec les autres. Mais bien plutôt, nous devons être en accord avec la parole de Dieu. Avec Dieu. Être en accord. C'est ainsi que l'accord doit être. C'est à cela que l'accord doit ressembler. Pas en accord quand un frère dit quelque chose et enseigne quelque chose et qu'un autre frère encore dit autre chose sur le même sujet, etc. Et moi, je suis d'accord avec celui-là, non, moi avec l'autre. Non, il s'agit d'être en accord avec Dieu et la parole de Dieu, pas avec des frères. Il ne s'agit pas que toi, tu me donnes raison dans ce que je dis ou bien que moi, je te donne raison dans ce que tu penses, mais que nous puissions tous donner raison à Dieu, car c'est ainsi que c'est écrit. Comme lui-même ne s'éteindra pas et ne s'effondrera pas avant d'avoir fermement établi le droit sur la terre. Ésaïe 42, verset 4. Il n'éteindra pas la mèche fumante, il ne brisera pas le conduit plié. Ésaïe 42, verset 3. Il a fait connaître le droit et la justice. Maintenant, ça dépend de nous que nous puissions être apportés en accord avec sa parole. Notre bien-aimé frère Joseph a déjà ce matin dit, il y a un frère qui dit ceci sur ce sujet et il y a un autre qui dit autre chose sur le même sujet. Ensuite, il me demande si je suis en accord avec cela. Maintenant, l'heure est venue où il ne s'agit pas d'être en accord avec un frère Franck ou un frère X ou Y, mais d'être en accord avec Dieu et la parole de Dieu. Et que nous ne nous éparpillons pas dans toutes les directions du vent et suivre chaque vent de doctrine. Mais quand c'est écrit dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 4, attire-moi après toi, viens, hâtons-nous. Nous ressentons que nous sommes attirés par l'époux, si nous sommes vraiment l'épouse, si nous appartenons à l'épouse. Et si l'époux est la parole, alors nous sommes attirés après lui, après sa parole, après la parole. Parce que nous sommes devenus une partie de sa parole, de lui-même, une partie de la parole, pour cette heure, la parole de cette heure. Et l'époux est la parole. Et cette parole s'accomplira en nous. Et nous en deviendrons aussi une partie. Loué soit le nom du Seigneur. Nous ressentons comme épouse que nous sommes attirés par la parole. Je sais dans mon cœur. Et cela sur la base de la parole de Dieu que le Seigneur n'a pas seulement envoyé son esclave serviteur pour semer le trouble et amener beaucoup de gens à pécher et à le rejeter. En le rejetant. Mais je sais dans mon cœur que l'Éternel l'a envoyé avec un objectif plus élevé, c'est-à-dire pour l'appel à sortir de l'église épouse, pour la révélation de la volonté et de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que tel qu'Israël avait été appelé à sortir par Dieu pour un objectif bien déterminé, avait été déterminé, pour une attitude bien déterminée, par élection et ensuite suivait Dieu, et que par eux Dieu s'est fait connaître. C'est ainsi que la vraie Église est appelée à sortir de tous les peuples, les langues et les nations. A été appelée à sortir. Pour quelle raison? Pour être un témoignage de Dieu ici sur cette terre. Pour ici donner à Dieu la possibilité de se manifester. Que cela n'arrive pas comme dans 2 Rois 17, 33 et 34. Ils étaient donc adorateurs de l'Éternel, mais en même temps, ils restaient serviteurs de leur Dieu selon les coutumes des ethnies dont ils avaient été enlevés. Jusqu'à ce qu'ils continuent selon les coutumes de leurs origines, ils n'agissent. C'est pas selon la parole de Dieu. Et ils disaient même, ils se félicitaient d'être bénis, se réjouissent dans leur cœur en pensant les choses iront bien pour moi. Combien se félicitent aujourd'hui, se réjouissent dans leur cœur. Comme nous l'avons lu dans Deutéronome 29, verset 19. Je ne le dis pas ici pour amuser. Non, ce ne serait pas bien. Durant mes voyages, je fais la connaissance de différentes personnes. Par exemple, le principal conseiller du pape qui prenait un vol de l'Allemagne à Rome. J'ai vu et entendu plusieurs personnes, plusieurs sortes de personnes. Mais une fois, j'étais assis à côté d'une religieuse. Et cette vieille tante qui semblait importante, alors que l'avion devait décoller, elle a tout de suite fait son signe de croix, comme ils le disent. Probablement qu'elle a eu peur, je ne sais pas. Elle avait peur, je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'ai vu. Et j'ai tout de suite saisi l'occasion. Et l'occasion pour l'entretien était là. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait, bien aimées dames? Elle était elle-même en sorte citoyenne américaine, issue de la communauté autrichienne hongroise. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait maintenant là? Elle a dit simplement, je me suis béni. Alors je lui ai dit, mais moi, je ne suis pas capable de me bénir moi-même. Mais moi, c'est Dieu qui m'a béni. Et alors, il y a eu un entretien qui a commencé. Et il était très merveilleux de voir comment est-ce que Dieu a conduit les choses. Mais c'est ainsi. Les gens se bénissent eux-mêmes. Se font des pèlerinages. Se prosternent ici et là. Et vont adorer dans ces différents lieux. Mais je fais encore un pas de plus. Pensez au film de Frère Branham. Qu'est-ce qu'il disait là? Mais si nous avons encore dans notre cœur une idole, faites-la sortir. Alors, et il n'a pas dit ça à des incroyants, il le disait à des croyants. Et ensuite, il a dit, mais ta maison peut être une idole. Ta voiture peut être de l'idolâtrie. Ta maison est de l'idolâtrie. Tout peut être devenir de l'idolâtrie pour toi. Faites sortir tout de vos cœurs. Même vos enfants peuvent être de l'idolâtrie. Tout peut devenir de l'idolâtrie pour vous. Mais si nous avons fait sortir de notre cœur tout ce que nous avons de manière particulière, tout ce que nous aimons de manière particulière, comme dans Jude 10, verset 16, et que Jésus-Christ peut avoir la première place, alors cela aura lieu par la puissance de Dieu. Donc, il ne s'agit pas pour nous de s'apitoyer sur les autres et avoir pitié d'eux. Et dire ce serait plutôt et dire oh, c'est dommage pour eux. Non, c'est dommage plutôt pour toi et pour moi. Si nous avions entendu la parole de Dieu année après année et qu'à la fin un obstacle restait dans nos cœurs qui fasse en sorte que Dieu ne puisse pas recevoir ce qui lui revient de plein droit, c'est-à-dire avoir la première place, et de ce fait ne peut pas donc atteindre le but. Dieu va atteindre le but, mais il veut atteindre le but avec toi et avec moi. Nous savons qu'il achèvera l'église, il la perfectionnera, ça nous le savons. Mais la question est la suivante, qui sera présent? Moi, je vais à tout prix prendre part à cela. Et laissez-moi encore courtement lire quelque chose de la même page, la page 10 de la brochure, le troisième paragraphe. Nous devons trouver où est-ce qu'il a mis son nom, placé son nom. Car ça, c'est le lieu... Le seul lieu qu'il a choisi pour les chrétiens, pour les croyants, pour les enfants de Dieu, qu'il a préparé pour eux, pour qu'ils puissent là venir, pour l'adorer là, en ce lieu, dans ce lieu. Que peut être ce lieu? Nous voulons le savoir. Ensuite, je saute un paragraphe. Ici, vous dites, je pensais que cette écriture disait que Dieu choisirait le lieu et que Dieu ferait ensuite résider son nom dans ce lieu. Mais le Fils, n'est-ce pas, porte toujours le nom du Père, de son Père. Mon nom est Branham, parce que mon Père s'appelle Branham, ou bien alors Abraham. Jésus disait qu'il est venu au nom de son Père. Jean 5, verset 43. Je suis venu au nom de mon Père. Mais vous ne me recevez pas. Vous ne m'acceptez pas. C'est là, alors, que Dieu a placé son nom, a mis son nom, a fait résider son nom par le sacrifice de son propre Fils. Ça, c'est le seul lieu préparé par Dieu. C'est seulement là que les hommes peuvent rencontrer Dieu en Christ. Ça, c'est son lieu préparé. Pas dans une dénomination, dans aucune confession, dans rien, dans aucun autre lieu. Dieu aurait promis de nous rencontrer. Seulement en Jésus, il nous rencontrera. Car c'est le seul lieu où son nom réside. Alléluia! Gloire à Dieu! Et si nous constatons que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viens de nouveau à vous, je reviens à vous et j'habiterai en vous. Alors son nom n'est pas seulement au ciel, alors son nom réside ici sur terre, dans son église. Et nous avons vu que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes l'église du Dieu vivant et que nous devrions la former et l'être. Et le Seigneur lui-même a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront pas contre elle. Tel que comme fils de Dieu, il a porté le nom du Père. C'est ainsi que tous les fils et les filles de Dieu portent le même nom. Car il est écrit, je leur ai fait connaître ton nom. Père, garde-les dans ton nom que tu m'as donné. Alléluia! Gloire soit à notre Dieu. Ici est la révélation. Ici est la réalité. Ici, la puissance de Dieu doit être manifestée dans l'Église. Et nous croyons qu'elle sera manifestée. Vous pouvez tous le croire. Pensez-vous que Dieu a seulement révélé quelque chose pour que nous puissions nous en disputer, disputer là-dessus? Non. Quand Dieu révèle quelque chose, celui à qui Dieu révèle quelque chose, de toute façon, il ne se dispute pas. Et il ne va pas non plus se laisser attirer dans une discussion et des disputes. Non, il marche son chemin avec Dieu. Car ce n'est pas un qui enseigne l'autre. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ne l'oublions pas. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Un temple de Dieu. Tel que Jésus, ici, avait son corps, qu'il a appelé temple. C'est ainsi que nous sommes le corps du Christ. Temple de Dieu. Mais le temple ne doit pas rester vide. Le temple doit être rempli de la gloire de Dieu. Rempli de la gloire de Dieu. Dieu s'est préparé un corps pour ensuite y habiter et pour parler dans ce corps et agir dans ce corps, par ce corps. Et ainsi achever, accomplir l'œuvre de la rédemption. Et après, Dieu s'est préparer un corps qu'il a constitué de rachetés qui sont déterminés à ce qu'il puisse de nouveau encore parler en eux, agir en eux et se manifester, tel qu'il a fait dans son Fils. Sommes-nous prêts à être cette demeure de Dieu, le lieu de sa révélation? Ici, Frère Branham dit, c'est le seul lieu où Dieu rencontre l'homme en Christ. N'avons-nous pas toujours de nouveau dit que Dieu s'est fait connaître de toutes sortes de manières et a parlé par les prophètes? Mais personnellement, se révéler personnellement, il l'a fait seulement en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est peut-être raison que nous rendons grâce à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, pour tout. N'êtes-vous pas heureux? N'êtes-vous pas joyeux et reconnaissant de ce que Dieu, d'une telle manière claire et ouverte, nous a parlé? La révélation de la parole, la révélation du nom, et ensuite la révélation de la puissance de Dieu. Oui, c'est ce nom sera confessé par toutes les langues, et tous genoux se fléchiront devant lui. Nous fléchissons nos genoux déjà maintenant devant lui et disons et rendons grâce à Dieu de ce que il s'est révélé à nous. Oui, de ce que il nous a bénis. Il a béni. Je voudrais pour finir encore lire la première parole. La dernière parole, parlons d'Éphésiens chapitre 3. Parce que c'est avec cette parole que nous allons continuer cet après-midi. Dieu veut être honoré. Ici, il est écrit, Éphésiens, chapitre 3, versets 20 et 21. Mais à celui qui, selon la puissance qui agit en nous, est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit tout l'honneur dans l'Église et dans le Christ Jésus pour toutes les générations, dans tous les siècles jusqu'à l'éternité. Donc, dans l'Église, à lui est l'honneur. Nous chantons dans le cœur, nous donnons l'honneur qu'à Jésus. Et nous le pensons ainsi. Mais qu'est-ce que ce serait? Mais que se passera-t-il lorsque Dieu fera des choses qui amèneront les gens à s'exclamer en signe d'adoration et à dire, Dieu a fait de grandes choses. Je le répète encore une fois. Le Seigneur va achever son œuvre. Il nous a révélé sa parole et sa volonté. Fait connaître son nom. Maintenant, nous voulons lui demander qu'il puisse manifester sa puissance. À la fin, il y aura sur terre une église composée des appelés, de ceux qui se sont séparés, qui se sont mis à part, composée des élus qui portent son nom et au milieu desquels Dieu confirmera sa parole, car ce sont ceux-là qui ont cru, qui sont venus à la véritable foi dans le véritable Dieu. Ils croient les promesses pour ce temps. Et c'est nécessaire d'abord de croire ce que Dieu doit accomplir. C'est seulement après que cela peut s'accomplir selon notre foi. Nous pouvons l'expérimenter selon notre foi, selon ce que nous avons cru. Si tout le monde dit chrétien ne sait rien des promesses de Dieu pour cette époque, qui ont été données à l'Église. Alors, à quoi est-ce qu'ils doivent s'attendre avec leur accomplissement? Non, ils ne peuvent pas s'attendre à l'accomplissement de quoi? Non, nous sommes ceux qui peuvent s'attendre. Qui sont ceux qui peuvent s'attendre à l'accomplissement des promesses de Dieu maintenant? Ceux à qui Dieu a révélé ses promesses et leur a donné ses promesses. Et c'est ainsi que ce sont ceux-là qui peuvent ancrer leur foi dans les promesses. Et ainsi, Dieu a toujours ainsi accompli sa parole, ses promesses, et c'est ce qu'il fera encore dans le jour. Dieu a donné les promesses d'envoyer un prophète, et il l'a envoyé. Et Dieu a donné encore d'autres promesses, et il veille sur sa parole pour accomplir chaque promesse en ceux qui les ont reçus. À Marie, il a été dit, « Béni sois-tu, parce que tu as cru, car la promesse que le Seigneur t'a donnée s'accomplira. » Alléluia! Gloire soit au Dieu vivant. Nous sommes la semence spirituelle d'Abraham. Nous avons les promesses de Dieu pour ce temps. Et nous les croyons. Et nous les verrons accomplies. Alléluia! Réjouissez-vous déjà maintenant de ça. Réjouissez-vous dès maintenant de l'accomplissement des promesses, parce que Dieu le fera. Car c'est ainsi que c'est écrit. Même si les promesses se font attendre, persévérez, attendez-les, car elles s'accompliront certainement. Alléluia! Habakkuk, gloire et honneur soit au Dieu vivant, dans l'Église, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que tout le peuple dise Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.